Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un ADN avec Olivier, ça va? Olivier Sten.
Ouais, salut.
Avec nous. Fabien Invine.
Salut.
Adrien Cahuzac.
Bonjour.
Cédric Kersao.
Salut.
Et Jérôme S. Bonjour qui est avec nous également. Et on va parler d'une théorie, d'une fiction, de je ne sais pas trop comment l'appeler, un thème qui structure, qui hante un petit peu beaucoup d'œuvres de fiction en littérature, en jeux vidéo, en jeux de rôle. Il s'agit de ce qu'on appelle la théorie du complot.
Les théories du complot.
Mais ça forge aussi dans l'actualité, ça aussi.
Et l'actualité également qui est impactée par les.
Ouais, sur le web qui est un nœud. Incroyable pour communiquer tout ça.
Ouais. Les théories du complot sont vraiment présentes à l'esprit de beaucoup de gens. Certains y croient vraiment, d'autres savent qu'il ne s'agit que de théories, d'autres jouent à se faire peur en parlant. On va un petit peu discuter de tout ça et puis peut-être faire un bref rappel sur d'où ça vient, d'où historiquement ça part les théories du complot. Qui a envie de se lancer ?
Moi, je suis chaud. Allez, c'est parti.
Allez, Fabien.
Je voudrais juste dire un truc avant qu'il y ait que. Enfin, ça c'est pour le coup, c'est un sujet sur lequel je me sens pas nécessairement 100% légitime.
D'accord.
Il y a de l'excellente bibliographie et de la littérature là-dessus, mais juste que. On va essayer de faire un brossage général du sujet, mais
c'est vrai. Il faut dire autour de cette table qu'on n'a pas spécialement des spécialistes,
voilà,
plutôt des
ça,
gens qui sont intéressés pour de potentiels projets comme Adrien, des gens qui sont fascinés par l'idée, des gens qui s'intéressent à ça parce que moi par exemple typiquement ce qui m'a fait m'intéresser aux théories du complot c'est le jeu vidéo Metal Gear.
Ah, d'accord. J'allais dire c'est l'épistémologie mais non.
Non pas d'abord. Non justement j'ai d'abord commencé par m'intéresser.
Moi j'y suis arrivé en m'intéressant aux théories scientifiques, enfin à la création des théories scientifiques.
Autour de cette table, on est tous des gens qui avons vécu le 11 septembre, qui l'avons pris en plein dans la gueule. On était suffisamment adultes pour en comprendre le sens et suffisamment jeunes pour que cela nous choque. Tous autour de cette table, puisqu'on est à peu près de la même génération. Donc, du coup, on a forcément eu une vie.
Ouais, moi, sur ce point-là, d'ailleurs, j'ai vécu à ZF 10 jours plus tard. Du coup, c'était rigolo, ça.
Ah ouais, donc.
Le genre de coïncidence où, effectivement, sur le moment, le cerveau part à 1000 à l'heure.
Donc voilà, on n'est pas des spécialistes, mais on est des gens qui aimons en parler, et donc on va en parler.
Alors,
sur le podcast de la cellule aujourd'hui.
Ouais, petite rectification, des gens qui aimons en parler, c'est aussi vrai. On subit la théorie du complot, donc des fois, on est forcé de s'intéresser à ça.
D'accord. Toi, tu te places parmi les victimes de la théorie ?
En ce moment, oui.
D'accord. Okay, on va en discuter. Fabien, peut-être un bref rappel historique.
Ouais. Alors historique, non, pas vraiment. Mais d'abord pour parler de. Enfin, quand on utilise le terme théorie du complot, de quoi on parle exactement? Parce que en fait, ça recouvre. Le terme est très vague et très équivoque en fait. Donc, il faut faire attention quand on l'utilise. Quand on parle des théories du complot, est-ce qu'on parle des pensées donc qui voient le complot partout, c'est-à-dire ou est-ce qu'on parle des pensées qui voient le complot dans un fait en particulier? Déjà, ça, c'est une distinction qui est importante. Parler de théorie, en plus, c'est gênant parce qu'en réalité, une théorie, c'est en philosophie des sciences, c'est un modèle qui est censé expliquer la réalité, en fait.
Tout à fait.
La difficulté, c'est que une théorie, en tout cas, si on reprend quelqu'un comme Popper, il faut que ce soit falsifiable. C'est-à-dire que falsifiable au sens où il faut qu'on puisse montrer que c'est faux.
Sinon, il faut qu'il y ait des expériences qui, leur validité ou non, puissent infirmer la théorie.
Voilà, c'est-à-dire, sachant qu'une théorie n'est jamais prouvée en science, c'est-à-dire que si j'ai par exemple une théorie qui dit que tous les corbeaux sont noirs, je peux dire tel corbeau est noir, tel corbeau est noir, tel corbeau est noir, tel corbeau est noir. Si un jour je tombe sur un corbeau qui est blanc, ma théorie sera invalidée, c'est pour ça qu'elle est falsifiable. Mais tant que le corbeau est, tant que je vois que des corbeaux noirs, je peux dire ça laisse à penser que ma théorie est juste, mais je pourrais jamais prouver qu'elle est juste. C'est pour ça que c'est important de dire, enfin ça, je le dis aussi de manière plus générale parce que durant l'année 2013, il y a eu toutes les manifestations contre le mariage pour tous. On a parlé de théorie du genre et c'est un mot qui me tue. Comme enfin, et les gens qui disent c'est qu'une théorie, en plus le genre n'est pas une théorie. théories et c'est des bref.
Ce que tu invoques, c'est l'idée de théorie.
Voilà, c'est ça.
Le terme de théorie que tu interroges quand on parle de théorie du complot. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'appeler ça une théorie au sens où qu'une théorie soit une théorie, il faut que ce soit un modèle fictif qui soit falsifiable, c'est-à-dire dont on peut montrer par des faits qu'il est faux.
Quel terme toi te conviendrait mieux?
La pensée
du complot.
C'est pas mal. Alors qu'est-ce que j'appelle une théorie pas falsifiable? Donc ça c'est assez classique en philosophie des sciences. C'est Karl Popper, il pensait beaucoup à
la psychanalyse,
mais aussi à l'astrologie, c'est-à-dire à tout ce qu'on appelle les pseudo-sciences, c'est-à-dire les pensées qui prétendent être des sciences, mais en réalité, selon Popper, n'en sont pas. Je crois le matérialisme historique, qui est une branche de la pensée marxiste, était aussi considéré par.
Tout à fait.
Mais je parle bien du matérialisme historique. Hein, je ne parle pas de tout le marxisme. Je vois Olivier qui rigole.
Aussi, c'est sur la théorie du complot. On se fait nécessairement piéger, à mon sens, si on discute théorie du complot sans discuter du complot. Théorie du complot, c'est déjà en fait effectuer un jugement de valeur. C'est-à-dire, on dit théorie du complot, c'est pour invalider un certain nombre de points de vue. Et les invalider sans plus jamais les discuter. Ah, c'est de l'ordre de la théorie du complot, donc ce n'est plus de l'ordre du complot. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a déjà invalidé ces points de vue-là. En fait,
j'ai l'impression que le mot théorie, quand on l'emploie dans théorie du complot, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on a déjà invalidé, en fait.
Alors pour aller jusqu'au
bout, tu veux dire que le terme est péjoratif.
Fabien, vas-y. Je pense pas que les gens qui pratiquent les théories du complot appellent ça eux-mêmes des théories du complot. Ils disent c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est une vraie analyse que je suis en train de faire. Et alors là où je voulais aller jusqu'au bout sur mon histoire d'infalsifiable. L'astrologie c'est pas falsifiable. Donc pour Popper ça ne peut pas être considéré pas comme une science parce qu'on pourra toujours dire ah oui mais toi t'es Scorpion normalement tu devrais agir comme ça mais tu le fais pas parce que ton troisième décan est tel truc. Donc il y a toujours moyen de justifier ou c'est suffisamment les prédictions de la théorie sont suffisamment vagues pour que on puisse jamais être pris en défaut.
Ça me fait penser à une blague. Vous savez ce que c'est une tautologie?
Non.
C'est une tautologie.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et après, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? Après, il y a des systèmes aussi qui arrivent à leur, qui arrivent au bout, à savoir, par exemple, la psychanalyse. L'argument qui a tué Freud, c'est qu'il était en fait piégé par son propre système. C'est Sartre l'avait démontré dans les.
Cédric.
Quand il a voulu démonter Freud, et c'est vrai que l'argument, parce que bon, il a pinaillé sur des petits points, machin. Bon, la psychanalyse, c'est un art clinique. Freud l'avait reconnu, donc c'est pas vraiment une science. Bon, ça, d'accord. Mais surtout, ce qui a tué la psychanalyse freudienne, c'est écoute, mon pote, t'es prisonnier de ton propre système qui t'a été dicté par ton inconscience, qui veut dire que c'est un système qui est non valide, puisqu'il n'est pas fondé.
Alors, en fait, il y a plein de points.
Donc, il y a des systèmes. Un podcast psychanalyse, parce que je suis pas tout à fait d'accord.
Il y a des systèmes qui se mordent la queue. Non, mais attention, parce que là, c'est la critique de Sartre qui est effectuée à la psychanalyse freudienne aussi.
Après, on va encore dire que le podcast de la cellule est.
Étant donné que la psychanalyse était créée par un névrosé.
Oui, en gros, c'était l'argument. Quoi.
C'était une attaque à Dominem, finalement, de dire à Freud. Tu es névrosé, donc tu ne peux pas émettre une théorie.
C'est un peu plus que ça, parce que c'est quand même ton. En fait, t'es piégé par ton propre système. En fait, c'est ça le truc.
D'accord.
Et lui aussi crée des hypothèses ad hoc qui visent systématiquement à pallier aux déficiences du système. Un peu comme quand la Commission européenne nous dit ah, mais c'est parce que vous n'avez pas encore assez libéralisé que vous avez des problèmes. De la même façon, si tu ne comprends pas que la théorie freudienne est bonne, c'est parce que tu n'as pas. C'est parce que tu es encore en train de trop refouler.
C'est ça.
Et donc systématiquement, on va te trouver une hypothèse ad hoc qui va venir dire, qui va venir renforcer la thèse. Là où elle devrait être falsifiée, justement.
Alors, moi, je tiens le bon bout. Je continue sur cette première partie que je voudrais sur le terme théorie du complot.
Ouais. Et après, théorie. Hein. On parle de théorie.
Voilà,
c'est le terme théorique que tu interroges.
Et alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est une idée que je tire d'un bouquin de Pierre-André Taguieff qui s'appelle Court traité de complotologie. Enfin,
la complotologie, c'est pas mal.
En tout cas, il y a beaucoup d'idées que j'évoquerai ici qui viennent de là. Donc, je cite ma source où il dit mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les complots, ça existe. Il y a eu des complots pour se débarrasser de gens. Il y a eu des complots pour pousser à de faux procès contre des opposants politiques, etc., etc. Donc, quand on parle de théorie du complot, le terme est équivoque à la fois parce que c'est pas vraiment une théorie, parce qu'en plus c'est pas vraiment de complot dont on parle, mais plutôt d'une pensée qui est alors, et là j'avance d'un cran, c'est une pensée qui est hyper dans le doute, c'est-à-dire qui est en permanence
sceptique,
qui est sceptique, mais qui ne s'interroge pas soi-même en fait. C'est une pensée qui est sceptique, donc ils disent toujours ah non mais regardez, il y a un deuxième niveau à tel événement, mais qui s'interroge pas soi-même. Et en ça, excuse-moi, en ça, les pensées du complot. Alors je suis désolé, je j'ai pas de terme adéquat, mais
si, c'est très bien, je trouve, pensée du complot.
Les pensées du complot sont des pensées qui sont héritières de la modernité, puisque la modernité, la pensée moderne est une pensée qui prend de la distance vis-à-vis de ce qu'on voit, tu vois, qui dit non mais attends, un supermarché c'est un temple de la société de consommation et on est aliéné par enfin bon, là je comprends des pensées de gauche, mais enfin il y a des pensées tout un tas de pensées critiques sur la société, le capitalisme, et qui essaient de prendre de la distance justement. La difficulté, c'est quand cette distance ne s'interroge pas elle-même ou devient totalisante.
Juste pour illustrer ton propos, de donner un exemple rapidement, et après je donne la parole à Cédric et à Adrien, c'est que en fait, quand on voit un événement qui vient contredire la théorie du complot, ou la pensée du complot, le penseur du complot va se dire « oui, mais cet événement lui-même provient d'un autre complot, etc. » C'est-à-dire qu'il ne trouve jamais d'argument ou de faits qui contredisent son système. Il arrive toujours à contourner le problème en inventant un autre complot et un autre domaine sceptique.
En caricaturant un peu, si je te dis le 11 septembre, c'est dû au gouvernement américain, et que tu me réponds « ben non, regarde...
Tel fait.
Je dirais oui, mais en réalité, c'est parce que toi tu es manipulé par d'autres faits qui essayent de t'enfermer.
Et tu vois, en fait, c'est la même critique envers la psychanalyse. Dis, oui, mais en fait, si tu ne critiques la psychanalyse, c'est parce que tu y résistes, etc.
Ouais, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure.
Je sais que tu sais, mais c'est pour rappeler Alors, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, alors je suis pas d'accord avec la pensée du complot comme héritière de la modernité. Parce que si je vois des exemples comme Socrate ou des mecs comme Galilée, ce sont des gens qui ont subi, ou des gens gens autour de qui on a tressé en tout cas des complots. Et du coup, c'était pourtant voilà, Socrate c'était il y a 2500 ans.
Attends, j'aurais juste te dire
Galilée,
un truc.
C'était il y a
500
ans.
C'est pas parce que ça existait dans le passé que la formulation de l'existence de complots dans le l'histoire est faite au présent, si j'ose dire. C'est nous, dans notre présent moderne, qui analysons l'histoire comme toi tu l'analyses. Et c'est en ça que...
Et si tu veux que... Enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que des complots, il y en a... Des complots réels,
il y en a
existé bien avant. Mais la généralisation... L'apparition de penseurs qui vont penser ce que nous, on appelle des pensées du complot, et qui vont ensuite les répandre et les traiter ensuite, bon, ça va se répandre un peu partout, c'est un truc qui apparaît avec les Lumières. C'est-à-dire à la fin du... C'est un peu plus vaste que ça, mais enfin, ça s'accélère nettement à la fin du 18e. Ça s'accélère encore une fois à la fin du 19e avec le protocole des sages de Sion. Ça, on pourra
en parler. Pour moi, c'est l'origine.
La dimension antisémite de certaines théories du complot. Et puis bon, à la fin du 20e siècle, avec Internet, là, c'est l'orgasme. Je ne sais pas ce que la fin du 21e siècle nous réservera en termes de théorie du complot.
C'est peut-être aussi tout simplement la hausse du nombre de complots qui explique l'apparition de théories du complot comme forme de super-pensée, où finalement il y a ce scepticisme qui empêche de concevoir une quelconque pensée rationnelle.
Adrien puis Jérôme.
Moi je pense que cette explosion des théories du complot, ça reste très lié en fait aux méthodes de communication et à la vitesse des communications. C'est-à-dire qu'en fait avec la généralisation de la poste, du train de courrier, avec Internet, etc., ça permet à des gens qui n'avaient pas la parole, ou des gens qui entendaient des informations plus tard, de moins y réfléchir et d'agir plus dans l'immédiateté. Et cette immédiateté, c'est ça qui rend la folie possible de ces théories.
Jérôme, puis Fabien, tu voulais dire
C'est vrai que je suis pas loin de partager l'avis d'Olivier quand il dit qu'il y a peut-être une multiplication, en tout cas, peut-être pas des complots, mais des complots visibles qui se font percer à jour, enfin, en tout cas par rapport à une certaine époque où il n'y avait pas autant de liberté de la presse.
Je crois qu'à un moment donné, enfin, vous deux, vous devrez impérativement citer des exemples. Parce que à mon avis, de quoi?
Watergate,
d'accord. Voilà. Ça, c'est pour toi, c'est un exemple de complot.
Voilà. Tout cas, c'est le genre de choses qui font que, dans l'esprit des gens, on se met à dire tout se pourrit, on nous cache tout.
Moi, bon, je rajoute. Fabien.
Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce que disait Adrien, c'est vrai que c'est non seulement le fait de pouvoir communiquer, ça permet de recevoir beaucoup plus de pensées du complot, mais aussi parce qu'on a accès à beaucoup plus d'événements extraordinaires dans le monde. Ouais. Et ça, c'est un point qui est un peu important.
En fait, un peu important.
C'est marrant parce que je disais avant le podcast, je me sens pas du tout légitime, mais qu'est-ce que je parle? Je suis désolé, les auditeurs me connaissent.
Oui.
J'espère qu'ils m'en voudront pas trop.
On sait aussi que tu parleras moins à la fin du podcast parce que tu seras un peu fatigué.
J'espère que vous m'en voudrez pas trop aussi.
Je vais répondre à la demande d'exemple. Hein.
Ouais. C'est important, je pense.
Oui,
pour
oui.
Les
la situation en Turquie actuellement avec le réseau Ergenekon qui a été démantelé, qui représentait en fait une immense partie de l'armée, une immense partie du gouvernement et qui formait en fait un complot d'extrême droite. Les cellules Gladio à travers toute l'Europe, alors là je vais peut-être pas entrer dans le détail, ceux qui voudront pourront se renseigner sur Internet, ils sont déjà sur Internet d'ailleurs, donc ce sera facile pour eux, mais là c'est... chaque pays a eu sa forme de stratégie de la tension qui a été établie pendant une certaine période.
Il faudrait vraiment creuser tout ça. Tu m'éclaires là sur les cellules.
Donc,
c'est quoi la stratégie de la tension?
La stratégie de la tension, c'est un phénomène qui maintenant est fort documenté. Donc ça, je vais vous inviter à se référer à ce qu'on retrouvera sur Internet, Wikipédia et le reste, qui consistait dans les pays d'Europe où l'URSS ou des idées rouges pouvaient se répandre, a créé délibérément des tensions en termes d'insécurité pour obtenir, on va dire, un vote à droite ou un renforcement de la structure sécuritaire du système. D'accord. Et donc, on parle de choses très concrètes. Hein. On parle en Belgique des planques d'armes avec aussi... pour la plupart des analystes sérieux, à mon sens, un lien avec les tueurs du Brabant, donc ces types qui débarquaient dans des supermarchés et tuaient les gens vraiment pour des sommes misérables. Ils tuaient les gens en tirant avec des armes de pointe, d'accord, en étant très très armés. Et bon, maintenant il y a des analyses de plus en plus sérieuses, entre autres, faites par des journalistes français qui sont venus en Belgique pour suivre l'enquête et pour s'apercevoir qu'il y avait un lien manifeste avec ces cellules Gladio. Les années de plomb en Italie, toujours les cellules Gladio. Et donc, c'est un exemple, hein, mais si vous voulez me lâcher, d'accord, là-dessus, je peux développer.
C'est intéressant de voir les exemples de complots que tu cites, si tu veux, Olivier, parce qu'il me semble que finalement, ces complots sont assez simples. C'est très simple. Alors que dans la théorie du complot et dans la pensée du complot, Fabien demande il me semble qu'il y a quelque chose de très compliqué, que c'est super chiadé, qu'il y a tout le monde qui s'y met.
Ce qu'il faut... Ouais.
Une chose, c'est que...
Je repasse la parole à Fabien.
Plusieurs choses qu'on pourrait... distinctement qualifiés de complot viennent se renforcer mutuellement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez un documentaire, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui vous montre comment la presse est complètement à la botte du système et de ceux qui ont le pognon, vous constaterez qu'en réalité, quel que soit le journal que vous êtes en train de lire, c'est la même personne derrière qui vous parle. Et je pense que ça aussi, ça renforce cette impression de complot. Parce que quand vous commencez à approfondir par le biais d'une analyse sérieuse pourquoi finalement vous avez du mal à faire confiance à la presse traditionnelle, et si cette presse traditionnelle, après, elle n'est pas capable de vous parler de ce qui se passe vraiment en lien avec les cellules Gladio et ainsi de suite, ben vous finissez par mettre les deux événements en relation. Et pour moi, ils sont structurellement en relation, mais pas personnellement en relation. Il n'y a pas un individu qui passe de l'un à l'autre.
Ça, c'est vachement important ce que dit Olivier.
C'est super intéressant, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une personne qui dirige le complot, c'est une structure finalement qui engendre
cette sensation. Attends.
Ah, bien,
Moi, j'ai tellement de trucs à dire.
Il est à fond, là.
Une fois encore, je le répète parce que ça c'est super important, les vrais complots, ça existe. Quand on parle de pensée du complot, on parle de pensée du complot qui sont épistémologiquement, c'est-à-dire en termes de règles, de création du savoir, hein, de la science, non pertinente. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec l'histoire de la falsification. Mmh. Okay. Donc,
parlons de super complot.
Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que les pensées du complot se développent particulièrement sur des événements spectaculaires. Sur des événements qui sont extrêmement visibles, qui sont particulièrement peu probables, mais qui arrive quand même, c'est-à-dire que personne n'avait prévu, mais qui arrive quand même.
Se finir. On laisse Fabien finir, donc après ce sera la parole d'Adrien qui n'a pas l'air d'accord.
Je donne... Attends, je voudrais aller jusqu'au bout. Ouais, je vais donner des exemples. Le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy, le fait d'avoir marché sur la Lune. Tout ça, c'est des événements qui sont particulièrement spectaculaires. Marcher sur la Lune, on pouvait le... Et attends, j'aimerais aller jusqu'au bout. Et alors, là, je parle en tant que sociologue. C'est important de comprendre que ces pensées sont, une espèce de... En tout cas, ça s'intéresse à des phénomènes ou des changements sociétaux auxquels la sociologie s'intéresse également. Mmh. Et donc, en tant que sociologue, il y a une envie de dire non, attends, de défendre sa position épistémologique et de dire, moi, je m'intéresse à des phénomènes, mais je m'intéresse d'une manière que je pense être plus pertinente. Et par ailleurs, la sociologie, justement, s'intéresse à des phénomènes qui sont moins visibles ou beaucoup plus en profondeur.
C'est-à-dire que, théorie du complot, est-ce que c'est pas quelque chose créé par notre société du média et du spectacle ? C'est ça que tu veux dire ?
Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, un truc qui, à mon avis, disqualifie les pensées du complot, c'est de ne pas s'intéresser à des changements de profondeur, comme l'apparition de la société de consommation, comme mais de toujours être des pensées qui s'articulent autour d'événements très très spectaculaires. Et ça, quand on est critique par rapport à soi,
Adrien, puis c'est Adrien.
Moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit lié que au spectaculaire. Alors, effectivement, les cas spectaculaires, c'est spectaculaire les théories du complot qu'il y a derrière, hein, ça c'est évident. Mais il y a d'autres événements. Type les récentes affaires aux États-Unis sur plusieurs morts par massacre en public. Il y a toute la sphère
le
marathon et autres. Il y a toute la sphère républicaine où est apparue une théorie du complot sur le fait que Obama allait utiliser ces événements pour désarmer les Américains.
C'est spectaculaire, et ça.
Alors c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Il faut un marathon avec une bombe qui explose.
C'est spectaculaire.
Oui, mais en fait, le problème c'est que cette théorie, elle existait déjà. C'est pas ces événements la refont surgir un petit peu, mais ils sont là larvaires depuis super longtemps.
Oui, mais ils se centrent et ils naissent autour d'un événement spectaculaire.
Autre exemple, alors là j'ai plus le détail exact, mais je sais qu'il y avait une théorie à une époque sur le fait que les États-Unis et le Mexique voulaient créer un système complètement libéral en créant l'Americano Pesos ou un truc comme ça.
D'accord.
Enfin, c'est un truc qui est basé sur absolument rien du tout, il n'y a rien de spectaculaire derrière, c'était des délires sur de la finance en fait. Mmh. Alors après, peut-être que c'est lié à un événement spectaculaire, mais je ne pense pas que... ce soit forcément des événements spectaculaires qui créent un complot. En fait, je pense qu'à la base des théories du complot, il y a une peur des groupes qui détiennent des pouvoirs.
Alors, on pourra parler de la base des théories du complot.
Et que du coup, c'est... voilà.
Cédric,
je pense pas que le complot soit nécessairement lié aux événements spectaculaires. C'est plus facile d'instaurer un complot, en effet, quand c'est spectaculaire. Mais il faut savoir que les complots... Alors, attention, je suis pas un théoricien du complot, alors ce qu'on appelle chez nous les conspirationnistes.
Je suis pas dans
cette voie-là, loin de là. Hein. Mmh. Mais au contraire. Mais on est forcé d'admettre que des complots existent à plus basse échelle, largement plus basse échelle. Je vais prendre un exemple tout con, mais en ce moment, la France envie de stigmatiser la population rome. Que va faire le Pékin du coin qui est un peu raciste, et un peu con ? Il va aller, il va aller briser la fenêtre de son voisin. Puis il va aller voir son voisin le lendemain, il va dire j'ai vu le rhum, il a essayé de cambrioler ta baraque. Mmh. Que va faire le voisin ? Il va mettre des affichettes, donc véridique, hein, Villeneuve d'Ascq, vous pourrez voir, il y a des jolies affiches avec deux rhums soi-disant qui rôdaient dans le coin.
Ça, c'est un exemple très proche de celui qu'Olivier donnait tout à l'heure.
Ça, c'est un complot.
C'est un complot.
La différence entre ce dont on. C'est vraiment un complot. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui essaye de faire porter le chapeau pour nuire à une population qui est la population rome. Donc ça, c'est un vrai complot. C'est pas une pensée. Justement, c'est pour ça que je voulais faire cette mise au point au début, parce que les pensées du complot sont des pensées. Alors évidemment, je peux pas dire que c'est des pensées qui s'appuient sur rien.
Fabien.
Parce que ce serait les disqualifier immédiatement, et donc ce serait tomber dans le piège que je dénonce. Mais en revanche, c'est des pensées qui ne respectent pas les règles de création du savoir, qui ont été posées par tout un tas de philosophes comme.
Ce sont des règles qui s'appuient sur Bachelard. Le mensonge. C'est le, un complot s'appuie nécessairement sur le mensonge. Non, il y a un moment donné où on fait quelque chose au nom de quelqu'un d'autre.
Oui, mais la personne qui crée la pensée n'est pas en train de mentir. Ça, c'est important.
Oui, ah oui, oui, tout à fait. Ouais.
Le problème, quand même, Olivier. Moi, je voudrais quand même alors qu'on se laisse pas emprisonner dans le terme parce que. Allez, je vais qualifier ça de zone grise. Il y a quelque chose comme une zone grise entre la théorie du complot, en ce que j'appellerais le super complot, avec le type qui imagine systématiquement que. Qu'on pourrait aussi appeler la paranoïa, du type qui s'imagine qu'il y a des satellites qui sont en train de le suivre à chaque instant, que sa vie est au centre. Là, c'est le paranoïaque. Et puis, il y a le complot qui finit par être établi. Et puis, il y a une pensée sceptique qui remarque qu'on s'est fait très souvent rouler en tant que population par les élites au pouvoir et qui finit par douter assez systématiquement des médias et du reste.
Je suis parfaitement
d'accord. Et ceux-là se retrouvent souvent disqualifiés par l'usage du terme théorie du complot, alors qu'il y a souvent un fondement. Et théorie du complot, pour moi, ça fait partie de ces termes, mais j'y reviendrai sans doute dans un autre podcast. Mais il y a des termes pour moi qui sont des termes qui aident à penser et il y a des termes qui t'empêchent de penser. Et théorie du complot, c'est le truc que tu dis pour disqualifier, pour cesser de penser plus loin.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'analyse de la pensée du complot, ça invite à être critique sur notre propre posture critique. C'est-à-dire. Non pas à abandonner toute pensée critique, mais à exiger que toute pensée critique puisse s'appuyer sur des faits, puisse être falsifiable, soit critique à un niveau plus vaste, comme ce que je disais tout à l'heure sur les événements spectaculaires. Mais je suis d'accord qu'il y a une zone de gris, et c'est bien pour ça que c'est dangereux. Pour n'importe quel penseur qui essaye d'être critique de la société contemporaine, il y a un risque de basculer dans une pensée qui ne s'arrête plus, quoi, qui n'arrive plus à se penser soi-même.
Qui est prisonnier de son propre scepticisme.
C'est ça, qui est prisonnier de son propre scepticisme.
Cédric, tu voulais ajouter quelque chose.
Déficit de conscience. Alors,
en fait, ça tombe bien qu'on ait cité Popper au départ, parce que si Popper a démontré quelque chose, c'est que rien n'est vrai dans l'absolu. Alors après, on pourra me dire, si, il a démontré que rien n'est vrai dans l'absolu, donc ça c'est vrai, donc c'est le paradoxe du menteur.
Oui.
Mais voilà, techniquement, il a démontré que rien n'est vrai dans l'absolu. Et donc je reviens à mon exemple de Villeneuve d'Ascq. En fait, ceux qui sont le complot en question qui a eu lieu, qui a été vérifié, voilà, mais par l'expérience de certaines personnes, en fait, ceux qui ont comploté, ce sont nous, c'est-à-dire les gens qui ont dénoncé ce complot. Donc en fait, les gens, on s'est vu taxer de conspirationnistes, parce qu'on se dit, mais non, vous êtes complètement fous, jamais des voisins feraient ça. Donc il s'est révélé que si.
Ah oui,
et,
d'accord.
Et du coup, on est passé, on va dire, dans le mauvais camp. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est falsifiable. Que ce soit, en fait, tout le monde a un côté un peu sceptique. Et du coup, on peut vendre absolument tout et n'importe quoi. Et en fait, le danger est là, c'est-à-dire qu'en dénonçant un complot, tu peux toi-même devenir en fait ce qu'on appelle un théoricien
du
complot.
C'est exactement ce que disait Olivier, c'est-à-dire si on te taxe d'être un théoricien du complot ou un conspirationniste, ben c'est effectivement un mot qui t'empêche,
péjoratif,
qui t'empêche de penser, quoi. Un peu comme quand en jeu de rôle on dit c'est du jeu de rôle narrativiste.
C'est ça que tu voulais dire, Olivier,
du jeu narratif. C'est
quand tu disais que la théorie du complot, enfin la pensée du complot, t'empêchait de penser. Non, c'est le terme. C'est
entre
ça.
Autres, oui.
Le terme.
En fait, c'est que ce que qualifier quelqu'un de théoricieniste du complot, ça le discrédite.
Ah oui, non, mais
en fait,
clair.
C'est un argument de
quand tu vois, par exemple, quand tu as des argumentations, par exemple, dans C'est dans l'air, par exemple, une émission que je suis régulièrement, de centre droit, soi-disant, quand on prend, par exemple, cette émission-là,
orientée, on va dire.
Très souvent, la personne, par exemple, d'alternative économique ou la personne qui représente souvent l'extrême gauche ou la gauche. La gauche, disons juste la gauche.
Économique, extrême gauche.
Non, pardon. La gauche, en général, ou des propos, on va dire, plus proches de la gauche, dès qu'elle commence à partir sur des théories plus, on va dire, je ne sais pas comment dire, plus hautes, au sens où elle part sur de parler du système en règle générale, très très vite, elle est taxée de théorie du complot.
Oui,
très vite.
Ça, ça choque les gens, c'est pour ça.
Et voilà, et les trois personnes autour de cette personne rigolent, et puis fin de la conversation.
Bah, justement,
il y a un côté,
voilà.
ça casse totalement la pensée.
C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien, il y a un lien de la pensée du complot.
Ça s'observe, ça.
Avec la pensée critique, qui est souvent une pensée de gauche, mais pas nécessairement. Hein. Il y a des pensées critiques de droite et d'extrême droite. Donc, enfin, ça se trouve à.
Ou même non situé politiquement, Nietzsche, tu peux rigoter. Mais...
Oui, absolument. Nietzsche, par exemple, c'est une pensée qui est difficile à placer politiquement. Ça, c'est.
Alors après, moi, j'ai un. On va pas partir.
Ouais,
c'est
pas
un podcast sur Nietzsche.
Ça, mais ouais.
Moi, j'ai un problème.
On parlera en off.
Ça marche.
J'ai un problème là-dessus, c'est que. Est-ce que c'est pas finalement, quand on dit ça, est-ce que c'est pas finalement donner raison quelque part aux théories du complot que de dire bah finalement on a raison de s'interroger sur certaines.
On a raison de s'interroger, mais il faut aussi s'interroger sur sa propre interrogation.
D'accord, ok. Ouais, tu prends du recul sur le phénomène. Jérôme.
Je voulais revenir sur quelque chose que tu disais, Fabien. Quand tu disais que les pensées du complot ne s'intéressent pas au changement de fond. Alors, sur Internet, on peut en trouver des gars qui font, alors pour le coup, des super complotistes qui mélangent un peu tout et n'importe quoi, Illuminati, francs-maçons, templiers, etc. Et qui te font un mélange de toutes les théories du complot, mais ils ont une... Il y en a qui arrivent à avoir une belle toile d'araignée presque cohérente, quoi. Et ils te disent, oui, c'est parti de l'argent des templiers que les juifs ont récupéré pour monter les banques et prendre le contrôle sur le...
Mais tu vois... Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que. Ok.
Elle a un nom, ta théorie, j'en parlerai juste après, Fabien.
C'est Metal Gear, non?
C'est quasiment
ça. C'est presque ça.
Ça
hein.
Bah, vas-y, alors.
Vas-y, Sen, je t'en prie.
Alors, en fait, cette théorie, c'est une théorie qu'on appelle la synarchie. C'est Olivier, toi, tu as peut-être entendu parler. Donc, en fait, la synarchie repose sur le fait que les Templiers, et c'est vrai, techniquement, les Templiers sont les premiers banquiers au monde. Parce que ce sont ceux qui ont créé, en gros, la carte de crédit. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionnait autant les Templiers, mais quand tu étais un Templier, tu avais un coupon avec voilà, je possède tant de pognon. Je vais dans un château, je ne sais pas moi, qui appartient à un autre mec dans un autre pays. J'arrive avec mon coupon, je peux retirer tant de pognon. Quoi. Mmh. C'est, en fait, j'ai une carte de retrait plus qu'une carte de crédit. Et en fait, ainsi de suite, le trésor des Templiers a été incommensurable et ça aurait été en effet récupéré, soi-disant. Donc, je vais pas dire juif, je vais dire ce qu'on appelle sioniste, comme ça les gens ont
oui,
ça en tête.
Il faut bien distinguer les deux, je pense.
Donc, par les sionistes. Ensuite, les sionistes auraient donc fait fructifier tout ça. Et aurait par la suite mêlé d'autres personnes, donc début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, cet argent aurait servi en fait à financer des guerres, donc la guerre 14-18 ainsi que la guerre 39-45, afin de s'enrichir sur cette guerre-là. Mmh. Et ainsi, là, à l'heure actuelle, ce sont les banques qui dominent le monde, avec à la tête de ces banques les méchants juifs aux nez crochus. Donc je dis
voilà.
Volontairement.
Ça, c'est vrai qu'on trouve des
ça,
traces de ça dans Metal Gear.
Ça, c'est le principe de synarchie. Alors attention, il n'y a pas d'anti-sionisme chez Metal Gear. C'est la différence.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette histoire d'argent qui transite entre des grandes puissances.
Oui.
Et après, je passe la parole à Fabien.
Et l'idée de Metal Gear 3 est très intéressante.
Hein. Mais tout à fait. Mais c'est une fiction. Et c'est pour ça que c'est cohérent.
Il y a trois trucs dont je voudrais parler. Déjà, répondre à Jérôme, parler de l'antisémitisme qui est quand même une.
Protocole des sages de Sion, on peut peut-être en parler à l'occasion.
Ah ouais, on va en parler.
Il faut en parler.
J'en parle.
Je pense
après.
Que c'est important d'en
et
parler.
Après, et après les questions de fiction et de jeux de rôle, ça aussi c'est important. Il faudrait aussi qu'on reparle des questions de base de la théorie du complot. Donc pour répondre à ta question, ce qu'il faut voir, c'est que je continue à défendre mon bout de gras et mon point de vue sur l'idée que les pensées du complot naissent au départ sur des phénomènes spectaculaires. Les Templiers, par exemple, c'est un phénomène spectaculaire dans le sens où, voilà, il y a un roi, donc Philippe le Bel. Alors, je dis ça au XIVe siècle, mais j'espère qu'il n'y a pas d'historien qui m'écoute.
XIVe,
merci. Parce que ma maman est historienne, donc elle me lisait ça quand j'étais gamin. Il y a un roman là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, Les Rois Maudits. Bref, Philippe le Bel qui fait arrêter, blam, en masse tous les chefs, les leaders de l'organisation la plus puissante du monde européen de l'époque et qui fait brûler, je crois, les trois commandeurs, il me semble. Donc, enfin, un truc incroyable, quoi. Les mecs les plus puissants du monde qui se font abattre en quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, donc, un autre événement qui est, voilà, le fait que un autre événement spectaculaire, qui était les deux guerres mondiales, qui ont été la création de l'État d'Israël, donc des choses comme ça qui ont alimenté. Et ensuite, alors, je te dis pas que ils traitent, mais je sais bien qu'ils c'est quand même des gens qui sont intelligents. Et ensuite, ils ont rempli, si tu veux, les événements entre les deux pour expliquer pourquoi tel événement spectaculaire avait. On peut débattre là-dessus. Je suis d'accord. Mais disons que ce que je veux dire, c'est que je défends quand même mon bout de gras sur l'idée que c'est surtout des événements spectaculaires et qu'à mon avis, c'est un point sur lequel on peut critiquer les pensées du complot. Olivier, tu voulais dire quelque chose ?
Par rapport à ça, bah forcément, on parle plus de ce qui est spectaculaire. Donc celui qui est tenant d'une théorie du complot quelconque va te dire que bah, on parle forcément plus d'événements spectaculaires, donc c'est dans ces cadres-là qu'on parle plus de complots liés.
Pas dans la science, en sociologie, on parle pas des trucs les plus spectaculaires. Moi ma thèse traite pas nécessairement, enfin traite plutôt de trucs spectaculaires, donc c'est pas exactement ça. Mais s'il y a des gens qui font de la mécanique des fluides autour de notre table, c'est pas nécessairement des trucs spectaculaires.
Non, effectivement.
Non. Donc, c'est quoi, on pourrait imaginer qu'il y a des complots à plein d'échelles de la société, mais que ce soit que comme on parle plus de tout ce qui est spectaculaire, on parle aussi plus des complots qui sont liés à des événements spectaculaires.
Oui, mais il me semble que dans la théorie du complot...
Je le vois plus comme Olivier aussi.
Moi, il me semble que dans la théorie du complot telle que... En tout cas, moi, je l'avais imaginé quand je vous ai invité à parler sur ce podcast, c'était plutôt cette théorie totalisante, quoi, qui...
Oui, c'est ça.
C'est pas le petit complot isolé.
Ouais,
le
super complot qui résume...
Oui, alors,
dans lequel tout le monde participe.
Voilà, c'est ça. Moi, c'était le fameux truc, là, dont parlait Cédric, là.
Donc, la synarchie, par exemple.
La synarchie.
Sachant que c'est pas la seule, et c'est, comment dire... Bon, alors, je vais poser des bases, à savoir que moi, je suis un sceptique. Dans l'âme. Donc, je ne vais jamais fermer une porte à 100%. Donc, je pourrais accorder 1% de crédit à la synarchie et je pourrais accorder 0,00001% en disant que oui, les sionistes gouvernent le monde, machin. Mais parce que je me ferme jamais totalement à.
Je suis parfaitement d'accord avec toi.
Oui, non, mais c'était pas. Voilà, ça te visait pas, c'était juste proposer les bases pour que les auditeurs comprennent bien. Néanmoins, la synarchie n'est pas la seule, hein.
Une théorie du complot. Grosse.
On parlera parce que là, on parle sujet sérieux, mais attention, on peut se marrer et parler des reptiliens après. Hein. Ouais. Vous allez voir, ça va être nettement
plus drôle. Il y a des rapports du département d'État là-dessus. Olivier. Du département d'État américain fait des rapports là-dessus, ce qui peut être intéressant pour des rôlistes en manque d'idées ou enfin des meneurs de jeu qui voudraient creuser là-dedans.
Et alors,
il y a des rapports du département d'État avec entre autres cette histoire comme quoi on préparerait une grande crise pour que l'ONU prenne le contrôle du monde et qu'on enlèverait leurs armes aux Américains, mon Dieu.
Je voudrais parler de l'antisémitisme dans les théories du complot, parce qu'à mon avis, c'est important.
Oui, oui. Ouais, je veux bien qu'on fasse un petit détour par les reptiliens, après, ça m'amuse.
Et les hommes taupes aussi. Il faudra qu'on parle
des hommes taupes, ouais.
Non, mais des trucs,
déjà,
pour le coup, beaucoup
plus graves.
Beaucoup plus graves. Donc, le protocole des sages de Sion, c'est un texte qui émerge, il me semble, en 1917, qui, au départ, qui en fait, est lui-même. La réutilisation d'un texte qui avait été alors c'est
si
attends il me semble que
non, c'est un... non,
je sais
c'est
que c'est
un texte fictif où Montesquieu discute avec je ne sais plus qui
et en fait c'est un texte anti Napoléon III donc voilà, écrit par un français mais qui au départ est un texte un pamphlet politique quoi comme on pourrait écrire un truc contre Sarkozy ou Hollande à l'heure actuelle et en fait ça a été réutilisé par alors,
c'est la police tsarine, il me semble,
qui l'a réutilisé pour discréditer, mais je ne sais plus qui exactement. Enfin, je ne sais pas comment c'est né. Il y a un excellent livre BD, enfin, je ne sais pas trop comment dire, de Will Eisner sur le protocole des sages de Sion qui est assez facile à lire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Et le protocole des sages de Sion, grosso modo, c'est un texte qui prétend avoir été volé aux sages juifs qui domineraient le monde et dans lequel ils disent
comment instaurer progressivement une oligarchie mondiale.
Voilà, la domination mondiale par les... Donc un texte qui est éminemment antisémite. Et ce qui est terrible avec ce texte, c'est qu'il a empoisonné tout le XXe siècle.
Quoi Il
empoisonne, absolument.
Le XXIe siècle.
Churchill le... l'avait cité, lui avait donné du crédit. Le Times lui avait accordé
un article très très long.
Ouais, absolument. Avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ça a été repris
dans Mein Kampf. C'est à la base de Mein Kampf, donc le livre sur le combat politique d'Adolf Hitler. C'est un texte qui continue à circuler amplement
dans la communauté arabe en règle générale. D'accord. Et dans les pays au-delà de la Méditerranée, en Afrique du Nord, il y a encore énormément de gens qui croient que les protocoles du sage de Sion sont un texte établi. Il y a même des séries qui passent notamment sur Al Jazeera, des séries qui sont inspirées des séries télévisées comme Friends, sauf que c'est inspiré du protocole des sages de Sion, c'est-à-dire qu'on voit les sages de Sion discuter ensemble de l'élaboration de leur plan. Jérôme,
une anecdote à raconter par rapport au protocole des sages de Sion, mais par rapport au côté antisémite dans le fait que c'est vraiment présent. Moi, donc, comme tu le disais, je vis à Poitiers. À Poitiers, il y a eu quelques mois une histoire de mosquée qui a été inaugurée, qui s'est fait occuper par des jeunes d'extrême droite.
Alors, pour les citer, c'est Génération Identitaire.
Oui, voilà, exactement.
Une sale engeance, quoi.
Oui, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Bref. Un jour, je tombe sur un petit jeune qui vit juste à côté de chez moi, enfin, un voisin, quoi, d'origine du Moyen-Orient, 17 ans, super cool, quoi. Et il me dit, t'as vu l'histoire et tout. Il paraît que c'est pas des faf, il paraît que c'est des juifs.
Ouais, d'accord. Ah, ouais, voilà. Petit événement.
Merci Jérôme pour l'anecdote. J'avoue que j'aime beaucoup, je trouve ça très savoureux.
Ben voilà, c'est ça. La preuve que ça structure encore la société et même la société française.
Et du coup, ouais, je voulais juste revenir, j'en ai juste pour deux secondes, c'était pour nuancer un petit peu le propos pour les auditeurs, à savoir qu'on disait, oui, la communauté arabe, attention, c'est une partie de la communauté arabisante, y croit, certes. Attention, parce que les antisionistes ne sont pas non plus en majorité.
Non, oui, c'est une minorité.
Effectivement, c'est important de dire que, de la même manière que le Ku Klux Klan ne représente pas la totalité des chrétiens.
Pour prendre l'exemple de la télé.
Il y a des dingues partout, quoi.
Je suis d'accord, mais il y a quand même des groupes structurants et des organismes politiques sérieux qui défendent le protocole des sages de Sion comme un texte fédérateur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que c'est un des livres les plus vendus au Moyen-Orient, les marchés.
C'est un texte, ouais.
C'est un des textes, pardon, ouais. Excuse-moi. Mais à l'heure actuelle, un des top des charts.
Ce qu'il faut dire aussi, pour pas qu'on ait l'impression d'être ceux qui sont en train de... Parce que justement, la théorie du complot, c'est une théorie qui est à la fois dévoilante et moralisante. Enfin, bon. Donc, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de faire notre propre théorie du complot de notre côté dans la baronnie à Saint-Malo. On n'est pas en train de dire que tous les gens qui s'intéressent à la pensée du complot sont des antisémites. Hein,
bien sûr que non.
C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Simplement, l'antisémitisme a joué un rôle important dans le développement des pensées
complotistes.
Des pensées complotistes.
Olivier.
D'autres choses qui ont joué une grosse part, je m'excuse de me répéter, c'est les complots, ceux qu'on a identifiés. Il y en a un autre qui me revient à l'esprit que je trouve assez impressionnant, c'est les armes de destruction massive en Irak. Il y a quand même un type qui est venu jurer à l'ONU que ça, c'était bien des photos de laboratoires itinérants de Saddam Hussein qui n'existaient pas. Donc, on a quand même des raisons de douter. On a des raisons de douter, à mon avis, autant de ce qu'on lit dans la presse que ce qui nous est dit par un autre. Et donc, on doit exercer une réserve critique vis-à-vis de tout ce qu'on en apprend, que ça vienne des théories du complot ou d'ailleurs, et après on juge en fonction des éléments dont nous on dispose. Mais c'est un problème parce que nos sources habituelles d'information nous trahissent en fait. C'est sans doute de là que vient un des gros problèmes.
Adrien. Surtout qu'en plus des véritables complots, il y a aussi les erreurs dans la presse qu'il peut y avoir. Genre par exemple récemment, lors du déraillement d'un train, il y avait des photos qui circulaient qui étaient en fait un train qui avait déraillé en Russie et pas celui qui avait déraillé en France. C'est le genre de bavure.
Et pourquoi le piratage
d'un compte Twitter de la Maison Blanche, je crois, je sais plus exactement, qui disait que Barack Obama était pris dans un accident, dans une bombe ou autre, et aussitôt la bourse new-yorkaise qui chute de X%. Enfin, là, c'est super bête, mais ça devient un impact des médias par leur pouvoir d'influence.
ça c'est lié à l'immédiateté. Ouais, c'est lié à Internet. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux être un média au top, il faut que tu sois... déjà, la presse écrite meurt. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas réactive, pas assez. Donc aujourd'hui, il faut être dans l'immédiateté. Résultat, tu vas réutiliser des photos, d'événements, etc.
L'affaire DSK aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme complot autour de l'affaire... Qu'est-ce qu'il y a encore comme complot autour
Qu'est-ce qu'il y a encore ? Parce que finalement, tout le monde est dans le flou, quoi.
Quelque chose, Fabien, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je voulais, enfin, c'est pas vraiment un truc. Bon, c'est une transition vers les questions de fiction.
On n'a pas parlé des reptiliens non plus. Je veux mes reptiliens.
On parle quand même beaucoup aux rôlistes sur le podcast de la cellule.
Tout à fait.
Moi, ce que je veux dire, le message que j'aurais envie de donner à propos des théories du complot, c'est employez-les en sachant de quoi vous parlez. C'est-à-dire sans que ce soit quelque chose de trivial, d'évident, même en rigolant, c'est quelque chose qui, moi, je trouve que ça pose problème. C'est-à-dire il faut avoir une certaine méfiance ou une certaine réserve sur quand on utilise ce genre de choses parce que ça a des conséquences qui sont pas neutres.
Tu veux dire que c'est finalement un thème grave qu'il faut aborder avec recul et sagesse.
Tu vois, quelqu'un qui utiliserait la Shoah ou la pédophilie en jeu de rôle, je dirais pas ne l'utilise pas, mais fais gaffe quand tu l'utilises et sache que c'est pas tout à fait neutre comme
Olivier.
Donc la politique est toujours une chose sérieuse et de la même façon les théories du complot le sont.
Mais si tu veux, on a l'impression quand je lis un bouquin comme Delta Green par exemple, qui est un supplément de Cthulhu qui est très très bien, hein, qui est super bon, mais j'ai l'impression qu'on trivialise un peu les théories du complot avec des nazis morts-vivants.
La théorie du complot, le triangle des Bermudes, c'est devenu une base pulp en fait.
Ouais. Mais à mon avis, il faut quand même. Je pense que ça vaudrait la peine
C'est important de prendre du recul. Prudent. Mais quand on aborde ces théories du complot d'un aspect pulp, je pense qu'on peut quand même garder ce côté humoristique.
Non, par contre, j'aimerais réagir. J'aime pas du tout les discours qui disent qu'il faudrait être plus prudent que de faire des allusions à X-Files dans Delta Green. Je veux dire, à un moment, on va plus rien avoir le droit de dire si on n'arrive plus à faire des blagues.
Je te dis pas que t'as pas le droit de dire. Je te dis pas que t'as pas le droit d'en parler. Je te dis juste qu'il faut prendre ça avec sérieux et avec prudence. Si je suis pas du tout en train de te dire.
Non mais. Tu fais pas œuvre de censure. Tu dis juste. Voilà. Lorsqu'on aborde ces sujets, ce qui serait sympa, c'est de faire en sorte qu'ils soient abordés à leur juste valeur.
Voilà, et de manière critique, sans que ça devienne une évidence.
Dans un jeu comme Delta Green, qui est un peu fait pour jouer du X-Files, de ce que j'ai cru comprendre.
Ouais
complètement.
Comment ne pas être caricatural et fantaisiste ? On voit l'homme à la cigarette dans X-Files, on voit machin, tout ce qui...
Oui, mais c'est pas parce qu'une œuvre a trivialisé auparavant certaines choses que...
Moi, je trouve pas qu'elle l'a trivialisé. C'est plutôt classe, en fait, ce qu'elle
fait. Moi, j'ai pas vu.
Aujourd'hui, c'est trivial parce que c'est devenu un peu une culture commune. C'est comme aujourd'hui, ce serait comme dire que Tolkien a été trivialisé.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, ça restait super classe. Enfin, X-Files, ça a foutu une claque tout le monde, quoi. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en avez.
Moi, je comprends pas du tout cet appel alarmiste. Hein. Laisse-moi terminer. Je comprends pas du tout pourquoi on aurait spécifiquement peur des théories du complot. J'aurais bien plus peur d'un manque de pensée critique à notre époque.
Oui, mais voilà, c'est exactement ce que vient de dire Fabien.
Vis-à-vis des canaux de communication les plus importants que de théoriciens du complot qui théoriseront généralement juste dans leur coin avec leurs propres potes.
Oui, mais sauf que ça se répand à travers des fictions, notamment le jeu de rôle. Et que, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut avoir un recul critique vis-à-vis de ces théories du complot qu'on a tendance à reprendre, alors qu'elles ne sont pas neutres, si tu veux. On parle d'antisémitisme, mais il y a plein d'autres cibles possibles aux théories du complot, qu'elles soient de droite ou d'extrême droite ou d'extrême gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il y a un autre truc que je voudrais dire. On parlait de trucs pulp tout à l'heure. Des choses comme le Yeti.
Qu'est-ce que tu veux ?
Le Migou. Attends. Le Migou, des trucs comme ça. C'est de la pseudo-science, effectivement, mais on ne peut pas en parler. C'est des pseudo-sciences.
De Loch Ness.
C'est ce qu'on appelle de la cryptozoologie. Et Enfin, ça, ce serait. On pourrait faire un podcast sur la cryptozoologie.
Ah oui, il y a des choses
sur les pseudosciences de manière générale. Oui. Mais ça n'est. On peut pas dire que ce soit exactement de la théorie du complot. C'est juste pour dire que dans le pulp, il y a plus que de la théorie du.
Oui, il y a plus, complot. Bien sûr. Mais moi, je pensais par exemple à la Terre creuse ou ce genre de choses qui arrivent souvent dans les.
Mais ça, ouais, mais la Terre creuse, c'est plus de la, je sais pas, cryptogéologie, quoi. Ou
ça apparaît, pas vraiment une... ça apparaît aussi dans des théories du complot. Hein.
D'accord, ok.
D'accord.
Et de façon vraiment centrale. Hein.
Bon, tu vois, alors là aussi que les théories du complot reprennent des idées de d'autres pseudosciences, ça invite à être critique vis-à-vis de ces pensées-là.
Cédric.
Quoi.
Cédric.
Il y a une et notamment au centre de certaines théories du complot, il y a en effet la pensée qu'il y a des extraterrestres au centre de la Terre. Donc on l'a vu très récemment avec Pacific Rim. Que je vous conseille absolument pas. Je ne m'étalerai pas dessus, mais je pensais notamment à Wells dans La Guerre des Mondes.
Oui.
Voilà, et c'est comment dire, là on est dans le pur fictif, mais c'est vrai que c'est une idée qui a été reprise, comme quoi il y aurait des formes vivantes, extraterrestres ou non, qui n'attendent en fait qu'un moment clé pour se réveiller, envahir la Terre et nous exterminer. Quoi.
Quand tu parles de La Guerre des Mondes, tu parles de son émission de radio où il a fait croire à tout le monde que.
Non.
H.G. Wells a écrit un livre et ensuite Orson Welles.
Ouais, c'est ça, j'ai l'a lu à la. Ça. Je connais pas tout
ça.
L'a
lu à la radio et puis ça a créé un.
D'accord, de... Alors, c'est ça l'histoire. Parce que je confonds toujours les deux. Olivier, tu veux réagir depuis longtemps?
Oui, en fait, maintenant qu'on en est à ce point-ci, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est finalement qu'est-ce qui est à l'origine de ces super complots pour se demander finalement comment y répondre intelligemment.
Les bases de la théorie.
Mon sentiment, c'est que. On est de plus en plus confronté à des complots qu'on identifie et qu'on reconnaît, ce qui crée un grand scepticisme. Mais en même temps, il y a dans la population un gigantesque sentiment d'impuissance et que quand les deux se rencontrent, on se crée une figure, on crée une tête à l'hydre qu'on puisse décapiter de manière à se donner du pouvoir sur une situation qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et là aussi, j'ai beaucoup d'exemples. Je pense que le 11 septembre en est un. C'est l'idée que les États-Unis sont à ce point inattaquables, incritiquables, qu'il est à ce point impossible que quoi que ce soit vienne ébranler leur superpuissance, que quand il y a effectivement un attentat qui crée une véritable catastrophe pour les États-Unis, on ne puisse pas imaginer que ce ne soit pas eux qui l'aient voulu. On leur prête une telle superpuissance qu'on n'est pas prêt à envisager que ça n'émane pas d'eux. Et mon autre exemple, alors c'est là que c'est compliqué, c'est les policiers dans les manifestations. C'est un thème qui revient très très fort, que je me suis aperçu qu'il revenait beaucoup dans la presse. Les policiers qui s'infiltrent dans la manif. C'est à la fois une réalité, puisqu'on en a identifié qu'ils le faisaient.
Et qui joueraient les casseurs, c'est ça?
Et qui joueraient les casseurs. C'est à la fois vrai et c'est aussi parfois faux. Et je pense que dans la mesure où c'est faux, c'est parce que ça l'est pas toujours, mais il y a des cas où c'est faux. En tout cas, j'ai connu des cas où c'était faux et où c'était beaucoup raconté dans la manifestation alors que je savais que c'était faux. C'est aussi cette idée que finalement, l'État est à ce point tout puissant que celui qui fera usage d'un pavé contre une banque n'est nécessairement pas un citoyen, parce qu'il serait aussitôt maîtrisé, appréhendé, neutralisé totalement, mais s'il ose faire usage de cette violence, c'est qu'il participe de l'État lui aussi, parce qu'on est impuissant.
C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là, Olivier.
Les théories du complot émergent parce qu'on imagine des superpuissances, en fait.
En fait, on a un sentiment d'impuissance. En fait, c'est toujours le fait qu'il y ait des groupes de pouvoir, que ce soit un prince, un roi, des banquiers ou autre, et quand toi, tu es en bas de l'échelle... c'est un moyen pour toi d'envisager de rationaliser tout ça et d'essayer de te faire ta place quelque part.
Alors là, je trouve ça
super intéressant parce que si on faisait une espèce de théorie du méta-complot, on pourrait imaginer que ces théories-là du complot sont une manière de dire que, de laisser penser que la seule violence
existante,
c'est celle de l'État. Donc que la théorie du complot elle-même serait un élément d'un complot pour.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Pour
asseoir la puissance et la domination de l'État.
J'avais un autre.
Cédric.
Ouais, alors oui, si on va dans le méta-complot, c'est tout à fait possible d'envisager ça. Alors je voulais juste revenir très rapidement sur les flics déguisés en casseurs pour éviter les idées reçues. Ça arrive très très souvent. Hein.
Donc Cédric est un militant.
C'est vrai que c'est très fatigant de voir la BAC, la brigade anticriminalité, parce que ce sont les pires, qui enlèvent leur costume entre guillemets de manifestants et qui ont brisé trois vitrines et qui se sont barrés. Ça arrive très fréquemment, photos à l'appui, on voit aussi les CRS fracasser des vitrines, enfin, c'est, voilà. Mais alors attention, ça arrive bien sûr, des fois c'est de l'intox. Ça, je suis bien d'accord. Mais voilà, c'est pas parce que des fois c'est de l'intox que des fois c'est pas vrai, et vice versa. Mais bon, ça, c'était juste pour la précision. C'est ce que disait Olivier. Mais je préfère, voilà, c'est encore une fois expérience personnelle pour appuyer ce que disait Olivier.
Ah, j'ai une expérience personnelle aussi qui va tout à fait dans le même sens, donc je peux confirmer que c'est une réalité que ça arrive, mais c'est aussi le cas que dans certaines manifestations, certains membres de la manifestation refusent d'assumer le fait qu'il puisse y avoir parmi les manifestants des gens qui aient décidé que la banque, il valait mieux qu'elle soit plus là.
Oui, donc entièrement d'accord.
C'est marrant parce que moi, en fait, en t'écoutant, Olivier, j'avais envie de dire, enfin, en préparant le podcast, j'avais envie de dire strictement l'inverse. C'est que contrairement, je pense que les théories du complot sont pensées par des gens qui se sentent super puissants, justement. Parce que ils ont la... Ben, si, parce que quand on pense à la théorie du complot, on pense aussi pouvoir un jour en faire partie. Imaginez que quelqu'un...
Excuse-moi.
Non. Imaginez que quelqu'un puisse être suffisamment puissant, ou que quelques-uns puissent être suffisamment puissants pour pouvoir contrôler le monde, c'est souvent un fantasme de personnes qui cherchent à le contrôler.
Alors, enfin,
moi, tous les exemples de théoriciens du complot que j'ai dans mon entourage, ce sont des personnes qui ont une soif de pouvoir qui est très très prononcée. Et c'est pas un hasard, je pense. C'est parce que l'idée qu'il puisse y avoir un complot, sous-entend qu'il puisse y avoir des comploteurs et donc des gens super puissants dont ces gens voudraient eux-mêmes faire partie. Vous comprenez ? Moi, je pense qu'on peut soutenir strictement l'inverse de ça.
Alors, c'est ton expérience personnelle. Hein, alors, ce que je vois vraiment pas. J'ai le sentiment que ça traduit régulièrement de l'impuissance et qu'on parle souvent dans mon entourage. Les personnes que j'ai vues accepter ces thèses, c'était généralement des gens qui désespéraient de pouvoir agir sur le monde.
Alors, il faudra que tu répondes à une de mes questions après.
Parce que c'est pas des gens qui veulent entrer dans le complot, généralement. C'est des gens qui veulent le combattre.
Ouais, c'est ça.
Alors,
c'est pour ça qu'ils le dénoncent. Sinon, ils n'en parlent pas. Ils se contentent de se taire.
De ce que peu que j'ai pu me renseigner sur les auteurs qui ont écrit des livres carrément sur complotistes ou enfin ce genre de choses, je pense notamment, je me rappelle plus du nom de ce bonhomme, celui qui a fait la fondation et le documentaire Zeitgeist.
Zeitgeist. Alors qu'est-ce que c'est que Zeitgeist ? Parce que tout le monde en parle.
Zeitgeist est un documentaire diffusé gratuitement.
Mais c'est un truc où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de...
Si, il y a des paroles. C'est en trois parties. La première parle des similitudes entre Jésus et plein d'autres figures mythologiques, en disant des choses vraies, des choses pas vraies aussi. On nous dit que Dionysos est un Jésus incarné, né le 25 décembre. Il y a des choses très belles comme ça dans le documentaire, tout le long de toute façon. Après, on nous parle un peu des sociétés secrètes américaines, des rapports entre la famille Bush et les grandes banques, des choses pareilles. Il y a du vrai, il y a du moins vrai. Et pouf, à la fin, une fois qu'on a bien tabassé le steak, on lâche le 11 septembre.
D'accord, ok.
Et officiellement, c'est à but non lucratif, mais il faut savoir que la fondation a énormément d'argent, qu'elle a beaucoup de membres, mais qu'elle ne fait rien, et qu'elle dit non, nous attendons d'être, je sais plus le chiffre aberrant qu'il a dit, mais le jour où on sera 200 millions, on fera quelque chose, quoi, enfin, un truc comme ça, parce que là, on pourra vraiment changer les choses et tout. Donc, enfin, finalement, et ce mec-là, quand on le critique, c'est la fin du monde. Il y a un site, enfin bref, j'invite les gens à taper Debunk, d'ailleurs, si on a des théories du complot et qu'on n'arrive pas à trouver des éléments contre. Je pense au 11 septembre. Si on tape 11 septembre sur Google, on ne tombe que sur des sites qui...
La théorie du complot.
Voilà. Le mot magique, c'est debunk, généralement.
D'accord.
D-E-B-U-N-K.
Moi, je voulais ajouter...
Fabien.
Alors, en fait, il y a une explication sociologique... Enfin, une tentative d'explication sociologique et une tentative d'explication psychologique. La tentative d'explication sociologique, c'est un peu ce que dit Olivier, c'est-à-dire c'est en général des gens qui n'ont pas accès, qui sont dans un sentiment d'impuissance, qui n'ont pas eux-mêmes accès à la possibilité de changer leur environnement direct.
C'est pas vrai.
Attends. Ça, c'est plutôt une explication sociologique sur le sentiment de ne pas pouvoir... changer.
C'est un sentiment.
Et après, il y a une explication psychologique.
Qui
est une explication qui renvoie à l'incapacité d'accepter la coïncidence, L'aléatoire. Attends. Je développe mon argument jusqu'au bout. L'aléatoire jusqu'au bout et les trucs qu'on n'avait pas prévus qui font que incroyable ça arrive. Alors qu'en termes de probabilité, ben il y a beaucoup de trucs qui arrivent beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Et comme toute manière, voilà, un million de singes écrivant sur un million de machines à écrire pendant un million d'années, ben ils finissent par aléatoirement par recréer tout Shakespeare, quoi. Donc c'est un peu cette idée-là. Et après, on peut, si on est comme moi, assez critique des religions, on peut se dire que les religions ont pu se créer, ou en tout cas ont pu fleurir sur cette même peur, c'est-à-dire expliquer le hautement improbable, mais qui survient quand même.
Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai Olivier. Envie de proposer une autre explication psychologique. C'est l'incapacité qu'a l'être humain de prendre conscience du fait qu'il n'est pas libre. Ou en tout cas, son incapacité à assumer le fait que sa marge de liberté soit parfois très restreinte. Je crois que... Enfin bon, je vais revenir très rapidement sur ce phénomène, la personal group discrepancy, qui m'intéresse beaucoup.
Ah oui.
Sur le fait que, donc, si vous demandez à une personne... un noir, une femme ou n'importe quel autre membre d'un groupe minoritaire discriminé.
Les femmes ne sont pas un groupe minoritaire.
Pardon.
D'un groupe discriminé.
D'un groupe discriminé. Ils te répondent, donc vous demandez aux noirs, est-ce que les noirs en général sont discriminés ? Il va vous répondre oui. Est-ce que toi individuellement tu es discriminé ? Il va répondre la plupart du temps non. Ou en tout cas, c'est des proportions qui sont très 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 marquantes. Et en fait, pour avoir creusé cette question, les chercheurs se sont rendus compte qu'on avait une tendance à ne pas vouloir voir ce qui faisait que nous n'étions pas libres. Donc il y a une tendance fondamentale à refuser de voir que notre marge de manœuvre ou nos possibilités dans l'existence sont plus restreintes que ce qu'on pourrait fantasmer. Je fais vite un autre parallèle parce que j'aime beaucoup en parler.
Je confirme la source scientifique de ça. Hein. J'ai lu la même chose dans des articles.
Un exemple que je conseille à tous, c'est un film qui s'appelle Punishment Park. Donc j'adore reparler aussi, donc maintenant que j'ai l'occasion de le faire. Pour la première fois, je le fais à l'antenne, donc je suis content. Une situation où il y a trois personnes qui sont poursuivies par un tank de l'armée américaine et qui se cachent derrière une dune. Et à un moment,
il faut expliquer pourquoi.
Oui, donc j'avais essayé de faire le plus court possible. Donc c'est des dissidents gauchistes qui sont mis dans une espèce de jeu où ils doivent, en faisant du 6 km/h minimum, atteindre un drapeau américain. Le but, c'est de leur ramener les valeurs patriotiques. Et il y a un tank avec des militaires dessus qui les suit et qui va les abattre s'ils n'arrivent pas dans la vitesse prévu jusqu'au drapeau. Et à un moment, on se trouve avec trois personnages cachés derrière une dune. Parmi eux, il y a un hispano qui dit « Bon, allez les gars, assez joué, c'est ridicule, de toute façon, il ne faut jamais nous tuer, on est citoyens américains. » Il se lève, il se prend une balle dans la tête de la part des militaires, son corps s'écroule et les deux autres restent cachés derrière la dune. Et il y a une des personnages qui s'adresse à l'autre et qui lui dit « Ils ont fait ça parce qu'il était hispano, n'est-ce pas ?» Et en fait, on comprend bien que non, que si elle se lève... et qu'il la voit cachée derrière la dune, elle se prendra une balle dans la tête de la même manière. Mais elle refuse de l'admettre, elle refuse de pouvoir envisager qu'elle aussi, sa vie, puisse à ce point ne tenir qu'à un fil, qu'elle soit tenue par des règles absurdes et que finalement, sa marge de manœuvre dans ce qui lui reste de vie est extrêmement réduite. Et du coup, elle s'externalise par rapport au groupe qui... au groupe victime.
Et alors pour aller jusqu'au bout
et
de
ça,
ce que
c'est
tu veux
ce
dire,
phénomène par lequel on veut pas voir qu'on n'est pas libre.
Juste deux secondes, je voulais préciser que c'était un film de Peter Watkins qui est un monsieur très intéressant s'il en est.
Fabien.
D'accord. Qui a fait de bons films.
Et donc pour bien comprendre ce que l'intérêt de la personal group discrepancy, c'est que ce que tu veux dire par là, c'est que les gens ont tendance à ne pas s'impliquer dans un groupe. Dont ils sont pourtant hautement dépendants, c'est ça ?
Non, c'est simplement que cette problématique-là, je la connais bien et elle m'intéresse. Et j'aborde sous cet angle-là la pulsion fondamentale qu'on a à ne pas voir quand on est contraint. C'est-à-dire à ne pas voir les formes de contraintes qui s'exercent sur nous, à ne pas voir les endroits...
C'est une façon de s'extraire des dangers qui nous guettent, en fait.
Les dangers et les limites à notre liberté. C'est-à-dire, voilà. on veut se fantasmer comme ayant 1000 possibilités, 1000 avenirs, 1000
Donc, du coup, on est prêt à inventer.
Possibles. Et donc, on est prêt à s'inventer beaucoup de choses.
Beaucoup de choses pour
que.
Garder cette croyance qui nous est chère.
Cette liberté continue à exister.
Voilà, c'est ça.
Si on se rend compte
liberté.
Qu'on est face à une.
Cette croyance de liberté.
Cette croyance de liberté, voilà. Bien
ce
entendu.
Ce mensonge.
Si on est face à une structure. Qui nous opprime, si on se rend compte qu'on est dans une structure où il y a certaines forces économiques qui font qu'on a peu de chances que la démocratie soit une réalité, si on se trouve dans une situation où on fait le constat que les médias nous mentent systématiquement, on peut soit décider que... Enfin, il y a plusieurs postures possibles, celle du nihilisme total où on abandonne complètement le navire, et une des postures pourrait être... aussi, enfin, il y a la posture du combat, évidemment, et puis il y a une posture qui consiste à essayer de, comme je le disais, hein, vraiment donner une tête, donner un visage à l'ennemi pour pouvoir le combattre plus facilement. Si tout ça, c'est une structure avec 10 types en haut, sans doute le vice-président, mais pas le président, parce que lui, il est trop gentil, et il va démettre son vice-président à la fin, et on sera tous contents. Alors, on se donne les moyens de reprendre le contrôle de notre destin.
D'accord. Donc, c'est une manière de... J'essaye de te suivre parce que autant je comprends bien ton idée de base, autant le lien avec la théorie du complot me semble un peu flou. C'est-à-dire, c'est le besoin de se redonner du pouvoir.
Mais
en
oui,
fait,
mais justement.
De se donc, redonner du pouvoir.
C'est pas contradictoire.
À,
alors, c'est pas contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, quand tu disais que finalement, c'était la théorie du complot était la source d'un. Était à l'origine issue de l'impuissance.
Ah non, justement, tu te donnes une fausse puissance pour compenser le fait que dans la réalité, tu te retrouves confronté à une grave impuissance.
Cédric, d'accord.
Oui, alors, puis ça va même un peu plus loin, parce que oui, la plupart du temps, chez les gens, d'une, la théorie du complot est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, voilà, oui, l'ennemi est beaucoup trop puissant, moi, je peux aller tuer le président, mais de toute façon, on s'en fout, derrière, il y a 10 mecs qui vont le remplacer, parce que moi, je crois à la synarchie, parce que voilà.
Puis en plus, les reptiliens le protègent.
En plus, les reptiliens le protègent.
Il
y a ça, mais il y a encore plus grave, c'est qu'il y a des gens qui se disent anti-complot, donc ce qu'on appelle les conspirationnistes, finalement, qui vont dire qu'ils vont dénoncer des complots, et qui en fait vont utiliser ces mêmes complots pour garder du pouvoir sur ces gens justement qui sont faibles, qui ont besoin de ces complots pour structurer leur vie, pour dire oh là là, regardez comment on est malheureux, on nous opprime, machin. Et ça se vérifie dans tous les partis politiques. Et quand je dis bien tous, dans tous les partis politiques, en tout cas français de mon expérience personnelle, je pense notamment au parti communiste.
Je voudrais,
Fabien,
sur un ton un peu plus léger, il me revient un truc. Je crois que c'est dans Delta Green justement, où à un moment ils disent non mais si vous faites attention, tous les complots, toutes les pensées du complot, pardon, pas les complots, visent à détruire, enfin à décrédibiliser le gouvernement américain. Et en réalité, les pensées du complot sont créées par les extraterrestres pour que le jour où ils envahiront, les gens ne veuillent pas défendre le gouvernement américain et puis le laissent. Voilà,
oui, et ainsi de suite. Quoi. Enfin, on peut aller très 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 loin comme ça.
C'est...
Les reptiliens, moi j'aimerais bien qu'on en parle.
Ouais, faut parler des reptiliens là,
vas-y.
C'est le bon moment là. Qui veut en parler ? Cédric, t'avais l'air de connaître la chose.
Ouais, non, je suis pas très calé sur la situation. Moi, je connais une théorie autour des reptiliens qui consiste à dire que les reptiliens se cachent pour la plupart au sein de notre Terre.
C'est quoi des reptiliens ?
Alors, des reptiliens sont des extraterrestres qui ont colonisé des planètes.
On trouve des traces de cette théorie dans Cthulhu, hein. C'est du Cthulhu dans le texte.
Ouais, c'est vrai que c'est du Cthulhu, les
reptiliens. Des hommes lézards, c'est ça ?
Et c'est, alors en fait, voilà, ça prendrait la forme d'hommes lézards. Mais attention, parce que pour certains, ils auraient pris la forme d'hommes lézards pour s'acclimater à la Terre.
Et puis surtout, ils sont capables de changer d'apparence. Hein.
Oui, ils sont capables de changer d'apparence.
On a vu des vidéos où on les voit changer de tête. Hein, c'est
voilà.
Très
important. Alors il faut,
en fait,
y a deux choses.
C'est la série V, quoi. Enfin, la
oui.
série film de l'époque. Là.
Ouais, c'est un peu V. Alors c'est un peu plus construit que V dans la mesure où ils sont là. Et en fait, ce sont des cellules dormantes. Et en fait, ce sont les reptiliens sont des proches des hommes puissants qui les manipulent. Des fois, ils leur servent de garde du corps, des fois de conseiller, des trucs comme ça.
Et
notamment Bush qui était complètement leur pantin en fait. Tous les gens qui disaient que Bush était bête, hein, ils disaient mais c'est parce que c'est l'homme de main complet des reptiliens.
Il y a pas de qui vidéos... c'était le pantin, mais c'était manifestement le pantin de quelqu'un.
Et on a même des vidéos où on voit des flous parce qu'en fait le garde du corps du président a changé de tête, donc c'est un reptilien. Oui, oui. C'est des vidéos qui circulent sur Internet.
D'ailleurs, c'est très instructif. En parlant de Bush, je vous invite à regarder ses œuvres récentes. Il s'est lancé dans la peinture.
Non.
Si, si.
C'est un reptilien qui peint pour lui.
Si, si, je vous invite à aller regarder ses œuvres, hein, c'est particulièrement.
Ça, tu te fous de ma gueule ?
Non, non, c'est vrai.
C'est vrai ?
Oui, vrai.
Ah merde, bon.
Et je vais finir très rapidement sur les reptiliens. Un dernier pan de la théorie, c'est donc qu'il semblerait qu'on ait trouvé des traces de leur passage, en fait, avant l'existence des hommes. Mmh. Et il y a une photo qui circule, entre autres. Bon, attention, je suis un peu caricatural, mais c'est une photo qui circule, en fait, où on voit une trace dans le sol qui a été fossilisée. Et en fait, ça a une forme parfaite. Donc, on se demande si c'est pas un talon. Ou une griffe ou quelque chose d'un reptilien.
Voilà. C'est génial, les grands anciens.
L'incapacité à expliquer, à accepter l'improbable. Ouais. Mais sur les hommes taupes, bon.
Là, pas du tout calé sur les hommes taupes. J'ai entendu parler, mais alors.
Je caricature à fond, mais c'est une manière de montrer, de reparler de l'infalsifiabilité des
théories du complot.
De ces théories du complot qui justement
ne sont pas des théories.
Puisqu'elles ne sont pas falsifiables.
Absolument.
Les hommes taupes, donc je caricature, hein, je m'excuse s'il y a des gens adeptes de la théorie des hommes taupes, enfin de la pensée des hommes taupes parmi les auditeurs. Les hommes taupes habitent sous nos pieds, ils contrôlent le monde. Mmh. Et la preuve qu'ils contrôlent le monde, c'est qu'on n'en a jamais trouvé en creusant les métros. Puisque justement, comme ils contrôlaient le monde, ils pouvaient décider des plans du métro et donc s'assurer que ça ne croise jamais leur terrier d'homme taupe.
Alors, ça me fait penser au grandieux spaghetti, tout ça, en fait.
Ouais.
Le grandieux spaghetti, c'est autre chose. C'est des anti-cléricaux, enfin des laïcs américains qui ont dit « Non, mais attendez, à ce moment-là, moi, je peux créer ma propre religion qui s'appellera la religion du... »
Le pastafarisme.
Voilà, pastafarisme. Du grandieux spaghetti et qui me demande... Donc, mais ça c'est encore un second degré par rapport aux hommes taupes.
Enfin, ceci dit, selon ton argument, c'est parce qu'on ne les a jamais vus qu'ils existent.
Voilà.
Moi, je connais une secte beaucoup plus connue qui s'appelle le christianisme. C'est exactement la même chose. Dieu existe parce que je ne l'ai jamais vu.
Donc, toujours sur la question. La différence, c'est que le christianisme ne se prétend pas être une science pour le coup. Mmh. Dieu ne se prétend. Ouais, bon. Ne prétends pas à la réalité.
On pourra en reparler dans un cadre états-unien, par exemple. Je pense que.
Ouais, d'accord.
Moi, y a un...
Oui, c'est vrai. T'as parfaitement raison. En fait, le créationnisme se revendique comme une science.
Et il regagne énormément de puissance aux États-Unis. Il faut le savoir.
Justement, là, c'est là que Popper et toute la discipline épistémologique sont vachement importants pour combattre ça.
Exactement.
C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de la trivialisation de ces pensées-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est. Moi, mon appel, c'est un appel de scientifiques disant formez-vous un petit peu à l'épistémologie. Il y a plein de bouquins, de bons bouquins
notamment
là-dessus.
Notamment Popper, la connaissance objective.
Voilà. Alors après, on peut être fan de Popper ou pas, parce que c'est Popper soi-même, c'est débattu. Mais
Monsieur
tout cas, il y a des choses.
Monsieur Popper.
Au moins sur le principe.
Un petit Popper et un petit Popper, la soirée n'en sera
plus. Adrien.
Même Popper.
Voilà, si c'est pour dire non, ça, tu pouvais
pas parler, vous m'avez enlevé l'idée de la tête. Tout ça pour, en fait, j'ai l'impression que derrière toutes ces idées de complot et, en fait, aussi derrière certaines idées de secte, il y a un besoin pour beaucoup d'humains de rationaliser, d'avoir des explications, en fait, de peut-être réenchanter le monde quelque part, parce que il y a plus de mythologie, il y a plus rien, du coup, ils ont besoin d'expliquer ce qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer autrement. Et c'est des raccourcis mentaux pour.
Et d'où le fait que Fabien avait raison lorsqu'il disait que c'était vraiment le fruit de la société moderne.
Alors, je ne discute pas nécessairement cette dernière proposition, mais je voudrais appuyer ce que disait Adrien, dans le sens où beaucoup de pseudo-sciences, j'ai une amie qui s'est beaucoup intéressée à la cryptozoologie, et notamment à des trucs, enfin, c'est pas exactement la cryptozoologie, mais il y a des nains du Mozambique, me semble-t-il, enfin, ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, elle me disait, c'est souvent des gens qui ont cette envie de réenchanter le monde. Je pense pas que les pensées du complot soient des pensées qui ont envie de réenchanter le monde, mais c'est souvent des trucs qui ont envie de se dire, on n'a pas tout conquis, quoi. Il y a toujours une, il n'y a plus d'Amérique, comme disait Jacques Brel. Mais.
Ok. Alors moi, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'elle a pas du tout été abordée ou un petit peu juste comme ça, rapidement. C'est la question de la théorie du complot, en tout cas les pensées du complot. Est-ce qu'elles sont, du point de vue psychologique, parce que toi, Fabien, tu faisais une distinction sociologique, psychologique. Est-ce que du point de vue psychologique, vous jugez qu'elles sont rassurantes ou inquiétantes? Et j'aimerais qu'on fasse un tour de table déjà pour interroger vos propres intuitions là-dessus. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, les théories, les pensées du complot sont utilisées pour se rassurer. Et c'est là que je suis pas d'accord avec toi, Olivier, quand tu disais que c'était une manifestation de l'impuissance. Non, moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, les gens se rassurent dans la théorie du complot.
Tu te rassures parce que t'es impuissant. Enfin, c'est parfaitement complémentaire aussi. Ce qu'on dit.
D'accord.
Tu te rassures parce que t'es impuissant. T'as besoin de te rassurer parce que t'as ressenti une inquiétude. Ben, cette inquiétude, c'est ce sentiment d'impuissance. Tu es confronté à des choses inquiétantes au quotidien, tu te rends compte que t'as peu de prise sur le monde, et donc tu te rassures par le biais d'une théorie du complot. Donc là-dessus, je te rejoins. Ça rassure, mais parce que tu te sens impuissant.
Alors, moi, j'emploierais pas le mot rassurer, en fait. C'est plus expliquer.
Mais oui, mais justement. Enfin, ouais, d'accord, expliquer.
En fait, la différence, c'est que l'humain a besoin de comprendre. Il n'a pas besoin forcément de se sentir à l'aise.
Il y a beaucoup de choses
qu'on fait pour se rassurer.
Oui, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour se rassurer. Mais le fait de comprendre, ça peut nous permettre de savoir s'il faut qu'on soit, enfin, s'il faut qu'on se sente bien ou pas.
Bon.
On s'explique quelque chose et ensuite on se pose une.
Moi, je trouve que si vraiment ce que vous dites sur les pensées du complot était vrai, et si vraiment ça manifestait de l'impuissance, les gens n'en parleraient pas avec autant de plaisir. Moi, quand j'entends des gens parler de théorie du complot, faire des fictions avec, il y a un côté, ça fait rêver, quoi. C'est ce que tu disais tout de suite, Fabien,
psychologiquement, moi, je te disais pas que c'était un sentiment d'impuissance. C'était contrer l'improbable, enfin, expliquer l'improbable. Au mieux, c'est une impuissance d'ordre mental, c'est-à-dire parvenir à trouver une explication qui ne relève pas du hasard, quoi.
Non, moi, je parle d'impuissance au sens politique. Hein.
Alors, ça, c'est l'explication sociologique.
Oui, ah oui, d'accord. Je faisais le lien entre les deux.
Parce qu'il parlait de l'explication psychologique au début, mais ça, c'est ce que la question de l'impuissance aux politiques, c'est une explication d'ordre sociologique.
Moi, il y a un truc que je trouve paradoxal dans les gens qui me parlent souvent des pensées du complot, c'est qu'ils en parlent en jubilant, tandis que si vraiment ils y croyaient, ils seraient inquiets. Enfin,
que nous, quand on en parle, ça nous fait rire.
Mais non, mais.
Parce qu'on y croit peu.
Oui. Oui, non,
moi, on y croit avec ce petit pourcentage de certitude qu'on se garde pour au cas où.
Non, mais je partage l'expérience de Romaric. Les gens qui m'ont parlé, qui m'ont fait découvrir Zeitgeist, m'en parlaient le sourire aux lèvres, vraiment comme si. Et vraiment, il était super. Il en parlait avec ses tripes, le mec. Il y croyait.
Parce que c'est une bonne blague.
Non, lui, il y croyait.
Il y croyait.
Il me disait, regarde les trucs sur le 11 septembre, tu verras.
Oui, c'est ça.
Alors, si je puis me permettre, je vais faire une comparaison toute bête, mais le vieux qui est pis par sa fenêtre, le couple adultère, il cautionne pas ce qui se passe. Pourtant, il va te raconter l'anecdote en jubilant, parce que ça a apporté du piment dans sa vie. Les conspirationnistes ont un plaisir malsain à propager ce qu'ils appellent la vérité. Et il y a absolument pas... C'est un aveu de faiblesse involontaire.
C'est du ragot de petit village, mais à la grande échelle.
Vous avez franchi le pas du jugement de valeur, je veux bien le franchir avec vous, personnellement.
Mais c'est...
Bon alors, je me désolidarise de ce qui vient d'être dit, mais...
D'accord, parce que toi, t'en as une analyse froide et comme ça, mais...
Attention, je parle du point de vue psychologique.
Moi, ça m'intéresse aussi d'aborder la pensée du complot, non pas d'un point de vue épistémologique ou sociologique, mais aussi d'un point de vue purement intimes, vos expériences, votre vécu sur le truc, ouais, ça m'intéresse.
Voilà, et puis alors, ce que j'avais aussi envie de dire, c'est que là, on est en train d'utiliser des anecdotes d'ordre personnel.
Tout à fait.
qui n'ont pas une valeur scientifique réelle tant qu'elles ne sont pas analysées plus en profondeur, qu'on pas pu renseigner.
En même temps, je vous demande de faire. Là, je vous demande de faire un tour de table. Je vous demande. C'est aussi une question pour rebondir et pour partir sur d'autres débats.
J'ai pas arrêté de faire chier mon monde avec mes histoires de rigueur scientifique, donc là, je vais jusqu'au bout.
Non, mais là, soyons clairs. Ici, je vous demande de parler de ressenti. Je vous parle pas de faire de la théorie scientifique. Moi, par exemple, puis, chaque fois que j'entends parler
psychologique, hein.
Pour moi, pourquoi la théorie du complot et la pensée du complot font l'objet de fiction qui nous plaisent ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous plaît ? Est-ce que c'est parce que ça nous rassure ? Est-ce que ça nous inquiète ? Est-ce que c'est parce que ça nous rend heureux d'imaginer qu'ils puissent... C'est ça la question que je pose.
En fait, le problème,
pourquoi cette fascination pour cette pensée du complot ?
Il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui y croit et la personne que ça fascine parce que... ce qui la fascine, c'est les personnes qui y croient.
Moi, c'est qui croit en la théorie du complot ?
Moi, je connais pas grand monde, personnellement. Non. Mais je suis sûr qu'il y en a.
Si je
le problème, c'est que... moi, j'ai fait des études. Du coup, je pense que souvent... Les gens qui vont croire en ça sont des gens qui ont un niveau d'études peut-être inférieur. C'est assez hautain de ma part, mais je sais pas.
C'est sociologiquement faux. Il y a tu trouves des théoriciens du complot.
Tu me surprends beaucoup.
Quel que soit le niveau d'études.
D'accord. Et Jérôme voulait ajouter quelque chose là-dessus. Enfin, peut-être pas là-dessus exactement.
Non, mais ça tombe bien, tu as cité un nom que je voulais citer. Justement parce que. Et je trouve aussi marrant que ce soit selon certaines tendances de l'époque que certaines cibles aussi se révèlent. On nous parlait dans les années 20-30 des complots judéo-bolcheviques.
Ou hitléro-trotskiste. ça, je trouve que c'est formidable.
Mais
pour un stalinien, c'est normal.
Et ça me fait arriver sur Internet de me faire traiter d'islamo-gauchiste de nos jours.
Ah, c'est bien.
Et d'ailleurs.
Judéo-bolchevique, on dit.
Je reprends une idée de. Puisque je parle d'hitléro-trotskiste.
Alain Soral, notamment, qui dit.
Je reprends une idée de Pierre-André Taguieff que, bon. Je suis pas un fan absolu de ce livre, mais il y a une idée que je trouvais intéressante qui était de dire que les totalitarismes sont fondamentalement fondés sur des pensées du complot. Pour le totalitarisme nazi, c'est évidemment le complot judéo-bolchevique, même particulièrement le complot antisémite.
Oui.
Enfin, le complot des sionistes, bref. Et pour le totalitarisme soviétique, c'est des complots capitalistes réactionnaires à l'intérieur, souvent à l'intérieur du parti lui-même. D'où les nombreuses purges staliniennes dans les années 30-40. Là aussi, je suis pas certain sur les dates.
C'est marrant de voir à quel point l'ennemi est toujours bien désigné.
Oui, c'est vrai.
S'aimer,
c'est haïr le même ennemi.
Oui, voilà. Ouais.
Comme disait mon ami Jean Solpartre.
Et c'est vrai qu'en ce sens-là, les Américains font un très bon ennemi commun. C'est le grand méchant. Presque tout le monde a au moins une raison de dire « Oh, j'aime pas trop l'Amérique là-dessus ».
C'est-à-dire que peut-être qu'une explication, une explication de l'origine de la pensée du complot, ça peut être que plutôt que d'avoir à penser quelque chose de complexe, un système, une structure...
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait...
Je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire plutôt que d'avoir à penser quelque chose de complexe et des effets de système aussi. Quand tu fais de la systémique, tu te rends compte que plein de gens peuvent avoir chacun des comportements qui sont individuellement complètement rationnels, mais que pris ensemble, ça donne des trucs complètement absurdes, comme les crises économiques. Et donc, plutôt que d'avoir à penser des choses extrêmement complexes comme ça, en ayant une personne qui te veut du mal, tu peux expliquer facilement des événements malheureux. Quoi.
C'est ce que je voulais dire quand je disais que c'était rassurant. C'est que comme ça, ça permet d'expliquer facilement des phénomènes de souffrance.
Ouais, c'est ce que je te disais quand ça. Oui, c'est pour expliquer.
J'avais pas compris.
C'est des raccourcis mentaux.
Si on prend la réalité dans toute sa complexité, elle a de quoi nous inquiéter.
Puis c'est surtout impossible pour plein de gens. Enfin, moi, je suis désolé, mais tout ce qui est économique, j'ai aucune connaissance économique, donc
même les économistes ils ont du mal, donc
du coup c'est des problèmes. Alors Adrien. moi en sachant que je n'ai pas ces compétences, c'est un truc sur lequel j'évite de porter mon regard critique, mais quelqu'un qui a envie de se rassurer à tout prix là-dessus,
qui n'est pas capable de prendre cette distance-là, il va devoir se créer sa propre réponse. Et créer cette propre réponse, c'est imaginer. Et là, ben voilà, on tombe dans les théories du complot.
Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? J'aime bien ce qu'a dit Adrien. C'est...
Ouais, non, j'ai oublié mon propos, je passe la parole.
Un truc que j'avais envie de vous poser comme question aussi, j'essaye de reformuler, parce qu'il y a un truc auquel je tourne, mais j'arrive pas à l'identifier, c'est pourquoi vous pensez que les théories du complot sont aussi d'actualité, aussi vendeurs, enfin je sais pas comment dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est vraiment friand? Regarde les scores sur YouTube, des vidéos qui parlent de la théorie du complot. Récemment, le truc sur les pyramides, l'espèce de faux documentaire sur les pyramides.
Ça, ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas une pensée du complot. Non. C'est de la...
La crypto-égyptologie.
Ouais, la crypto...
Quoi, ce truc sur les pyramides?
Alors, en gros, la nana, voilà, part du principe qu'en fait, toutes les civilisations sont issues d'un même... comment dire? D'une même origine, ce sont les bâtisseurs qui étaient en fait des êtres humains qui vivaient avant sur la Terre et qui ont voulu nous donner, un petit peu comme nous quand on envoie des signaux dans l'espace, ont voulu nous donner des signaux sur un danger apocalyptique qui reviendrait à des cycles indéfinis. Ils avaient prévu qu'ils seraient morts d'ici là, donc ils ont laissé des traces de tas de savoirs, etc. qui donnerait à penser que la fin du monde va arriver. Enfin, en gros, une grande énigme à l'échelle mondiale. Putain, c'est pas une pensée du complot, je comprends plus, quoi. Échelle mondiale.
C'est peut-être un truc pseudo-scientifique. Oui, mais ça n'est pas une pensée du complot, d'accord. Parce qu'il n'y a pas un grand méchant. Au contraire, c'est des grands gentils qui
nous... Non, mais il y a quand même l'apocalypse.
C'est une tentative de faire face à l'absurde.
Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, les pseudo-sciences, les théories du complot, les sectes, c'est quelque chose qui tourne toujours autour du même problème. C'est que l'homme a besoin de se trouver des raisons, de s'expliquer des choses, et que du coup, certains raccourcis,
La femme aussi, d'ailleurs.
Jérôme.
Non, mais oui, je suis d'accord avec aussi, en fait, ouais, l'homme humain.
Et finalement, ouais, maintenant que les mots sont lâchés, je suis d'accord. Enfin, pour moi, tout ça, ça fait partie du même.
Du même cycle, du même effet de cerveau.
Oui, enfin, quand on parle
on touche
du
Yeti, la même fibre chez l'homme. Là.
Quand on parle du Yeti, quand on parle du 11 septembre, ou quand on parle des pastilles sous les McDo, tiens, la fameuse pastille anti-vomitive, je réagis de la même façon à chaque fois.
C'est quoi la pastille anti-vomitive?
Soi-disant, on nous met une pastille, un cachet anti-vomitif à chaque fois sous le pain du McDo pendant qu'il cuit. C'est pour ça qu'il y a un petit trou blanc sous le pain.
Oh là là, d'accord, ok.
Comme ça, on ne vomirait pas ce McDo dégueu, c'est ça?
J'ai croisé au moins 4 personnes qui m'ont juré à connaître des gens qui y travaillaient et qui leur avaient dit. Ouais, même des gens qui m'ont dit j'y ai travaillé. Et bon, quand on se renseigne,
connu plein de gens qui ont travaillé là-bas
et... à l'avance dans le pain sous forme de poudre et pas de soupe. Ils sont pas débiles déjà et merde.
Cédric puis Olivier.
Ouais, alors rapidement pour revenir sur le comment dire, on a l'impression que c'est un côté simple en fait la théorie du complot. Oui, alors pardon, pour les pyramides. Si c'est un petit côté, si on pousse un peu, c'est un petit côté théorie du complot, parce qu'il y a une volonté en fait de nous cacher la vérité. En fait, les gens qui défendent ça, au niveau chiffre d'or et tout, c'est dans ce sens-là, ça fait un peu théorie du complot, on veut vous cacher la vérité, il y a des bâtisseurs, ça rejoint un petit peu les reptiliens. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a un groupe
qui nous cache la vérité.
Dans le documentaire, ce sont les égyptologues. Dans le documentaire, ce sont les égyptologues.
Cette secte d'égyptologues très puissante.
Et d'ailleurs, ma mère ayant été historienne et archéologue, je suis ici pour détruire cette théorie, justement parce que je suis moi-même un corrompu.
Absolument.
Et je voulais donc le deuxième point, c'était à savoir le côté un petit peu, donc je disais simpliste. En fait, non, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient adeptes de la pensée du complot étaient des gens qui justement s'estimaient supérieurs. J'ai bien dit, s'estimaient. C'était pas une manière de réenchanter le monde pour eux. En tout cas, voilà, c'est une expérience personnelle. Je n'ai pas rencontré tous les adeptes de la pensée du complot, voilà, du monde. Mais la plupart d'entre eux voyaient ça en fait comme une façon de se gloser, quoi. C'était vraiment moi je suis plus intelligent que les autres.
Ils sont plus malins que tout le monde parce qu'ils ont compris les structures fondamentales du monde.
Voilà.
Alors que vous, pauvre Mina, vous êtes encore parmi les gens manipulés.
Je pense que Albert Camus, l'absurde, résume déjà beaucoup de choses de ce qu'on a dit. Hein. Les différentes stratégies que l'être humain a face à l'absurde.
Ah, exactement.
La religion, toutes les autres choses qui peuvent s'avérer rassurantes et qui vont ordonner un monde qui est absurde ou qui apparaît comme tel.
On trouve également cette pensée-là dans Citadelle de Saint-Exupéry, si vous avez des
questions. Dans la science aussi.
On retrouve chez Nietzsche également.
Voilà, c'est ça, Nietzsche. Je te dirais que...
Et chez Marx également.
Nietzsche te dirait que la science est il y a une volonté pieuse
sans mort
au départ pour Pour expliquer le monde. Mais chez Nietzsche, c'est plutôt de l'acceptation de, enfin bon, on pourrait en
pas,
discuter
de la, parler, de la... Pas pour Nietzsche, pour la plupart des hommes, oui, je pense.
Et on voulait faire un podcast sur Nietzsche, là, parce que vous arrêtez pas d'en causer.
C'est clair qu'il y aurait trop à dire. Hein.
Donc... Nietzsche était-il de gauche? Ça va faire mal.
Ouais, c'est clair que c'est un vrai troll, ça. Putain, c'est un troll de philosophe, mais c'est un troll. Hein.
Et ça va massacrer, là, sur les commentaires et tout. Ça va être violent.
Mais au moins, on attirera des gens qui ont fait de la philo à haute dose, quoi.
Bon, voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire sur la théorie du complot. Olivier avait quelque chose à rajouter.
Alors voilà, juste une dernière chose. Dans les commentaires de ce podcast, je mettrai des liens sur Ergenekon, la confrérie Fethullah-Gulen, sur les cellules Gladio, pour que ceux qui veulent se renseigner puissent découvrir qu'il y a des complots qui font partie de l'actualité politique et qu'ils ont tout intérêt à se renseigner.
Ça, c'est quelque chose de global par rapport au podcast de la cellule. Sachez, chers auditeurs, que je monte généralement le podcast le jeudi matin, j'écris le petit article et j'en fais la promotion sur différents forums, dont les ateliers imaginaires qui sont montés assez récemment. Le truc, c'est que j'ai pas toujours le temps de faire les recherches et de mettre les liens. Souvent, les podcasts de la cellule sont, il y a beaucoup de gens qui parlent et beaucoup de sources qui sont citées. J'ai pas toujours le temps de mettre les liens. Donc, c'est à vous, podcasteur, voire même auditeur, si vous trouvez des liens en rapport avec la conversation, voilà, de les mettre. Là, Olivier précise, voilà, qu'il va le faire, mais je vous invite tous, podcasteurs, à le faire sur les podcasts précédents où vous êtes et sur le podcast.
Le problème, c'est quand il sort, on se souvient pas toujours de tout ce qu'on a cité dedans.
Alors, il y a ça, puis il faut pas oublier que les liens et les propos n'engagent aussi que le podcasteur. Je préfère préciser.
Mais les auditeurs, par contre, peuvent, par exemple, s'ils connaissent les sources, les donner. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos auditeurs qui donnent souvent les références des jeux de rôle qu'on cite, ce genre de choses. Et ça, merci à vous, les auditeurs, de faire ça. C'est très, très précieux et très bien, parce que nous, on n'en a pas toujours le temps. Les podcasts sortent parfois plusieurs mois après leur enregistrement. Donc, comme vient de le dire Fabien, on s'en souvient pas toujours. Donc, merci aux auditeurs qui font ça et qui mettent les liens. Et merci aux podcasteurs qui comme Olivier, font l'effort de le faire. Dès que le podcast est posté, Olivier, je t'envoie un mail et tu nous fais ça. Voilà, pour ce qu'on pouvait vous dire sur les théories du complot. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je sais pas si
c'est un complot, la cellule, non ?
Oui, absolument. Tout à fait. Ouais. C'est...
Un complot qui s'affiche, c'est quand même rare.
Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a un tel sentiment de puissance de la part de la cellule que c'est bon, c'est gagné.
Bon, on va les laisser sur cette phrase de conclusion. Merci d'avoir écouté le podcast de la cellule qui, je vous le rappelle, complote pour vous, rôlistes. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne semaine. Jouez bien. Portez-vous bien, c'est ça qui compte. Ciao. Salut. Ciao.
À bientôt.
Salut.